7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. À l'occasion de la semaine des lycées français dans le monde, nous nous intéressons à l'école maternelle. Aujourd'hui, une spécificité bien française, puisqu'ailleurs on parle plutôt de jardin d'enfants. Dès 3 ans en France, voire même avant, c'est parti pour le marathon. Programme scolaire, évaluation. Les 3 années de maternelle sont rattachées au ministère de l'Éducation nationale avec des enseignants qui sont formés comme les autres enseignants de l'école primaire. On n'est pas là pour jouer, mais pour apprendre. Le concept s'exporte, d'ailleurs comme par exemple en Chine. En Afrique, la préscolarisation avance, comme avec la case des tout-petits au Sénégal par exemple. Alors pourquoi ces années sont finalement si importantes pour le développement d'un enfant? Un célèbre pédagogue américain disait « Tout se joue avant 6 ans ». Les voisins, appelez-nous si vos enfants fréquentent une éducation préscolaire. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions à nos invités spécialistes sur ce qu'apprennent vraiment les enfants à l'école maternelle ou en éducation préscolaire. 33 1 84 22 71 71, et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Je vous présente nos invités. Agnès Florin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'école maternelle, vous êtes professeur émérite en psychologie de l'enfant à l'université de Nantes. Et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Loire-Océan, que l'on remercie. Isabelle Danérol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'école maternelle publique de Reuilly, dans le 12e arrondissement, à Paris. Vous êtes aussi membre de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire. Alors, vous nous raconterez ce que font vos enfants dans les classes. Vous avez longtemps été enseignante vous-même en classe. On sera en ligne aussi avec Isabelle Ledrunérin, qui est directrice de l'école française de Sarrebruck et d'Yline. Et puis, en fin d'émission, on parlera d'un tout autre sujet, de la conférence sur l'élimination du travail des enfants qui se tient cette semaine à Buenos Aires. Des enfants évidemment privés d'école, 152 millions d'enfants qui sont au travail à l'heure actuelle. Parmi eux, 72 millions effectuent un travail dangereux. Sur l'école maternelle et l'éducation préscolaire. Alors, on a beaucoup de souvenirs émus de nos auditeurs. Patrick qui nous dit « Cette école permet de stimuler les enfants dès leur plus jeune âge. C'est une bonne chose. Évidemment, RDC, ça coûte très cher en République démocratique du Congo. » Kevin est lui aussi en RDC, à Lubumbashi dans le sud. « C'est une super idée, l'école maternelle, nous dit-il. Ça facilite la vie des parents. Mon frère en a bénéficié, mais parce que c'était une école privée, financée par une grande société. » Diaby Mustapha est à Bamako, Mali, nous dit « Moi j'ai fait l'école coranique avant 6 ans et j'y retournais en vacances, mais sinon il n'y avait pas d'école maternelle chez nous. » Brejnev est à Brazzaville, au Congo Brazza. « Moi j'ai pas pu aller à l'école maternelle, trop cher. De plus, il n'y avait pas de centre préscolaire dans les milieux ruraux. Mais moi je veux que mes enfants aillent à l'école maternelle. » Mergui aussi, dans la même ville, nous dit « C'est vraiment une des choses qu'il faut copier de l'Occident, permettre à un enfant de grandir dans une ambiance aussi festive, éducative, culturelle, c'est merveilleux, alors que d'autres attendent l'âge de 6 ans pour commencer à tout apprendre au CP. » Voilà, vraiment largement plébiscité, hein, cette école maternelle. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du standard pour nous appeler. Baptiste ou Sigrid attend de vos appels. Suivez-nous aussi sur Facebook, sur Twitter en direct, et puis maintenant aussi sur Instagram.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Alors, que font vraiment les enfants en classe de maternelle? Réponse en grande section, c'est la 3e année de maternelle à l'école publique du Général Brunet à Paris, dans le 19e arrondissement.
Aujourd'hui, on a fait de la peinture à la main.
T'as fait de la peinture avec tes mains? Et t'as utilisé quelle couleur?
Bleu. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Des fois, on dessine des animaux avec des écailles. On avait dessiné des serpents, des lézards, des tortues et des crocodiles.
Adam, qu'est-ce que tu aimes à l'école?
Regarder les livres, les chevaliers.
Et ça raconte quoi, dis-moi, ce livre, Adam?
Ça raconte que les chevaliers, ils font la guerre. Les dents, là c'est les armures.
Dans ma petite île là-bas, j'ai trois perroquets en bois. La première est sage, le deuxième est fier, le troisième fait tout à l'envers. Quand il se met à le parler, il se met à répéter « Coco, co, n'est pas rigolo. Ré, ké, ké, relève le nez. »
Elle t'apprend quoi cette chanson ?
À compter. J'ai compté jusqu'à 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Et tu te souviens de ce que t'as appris d'autre ?
Écrire mon nom. I-N-E-S.
Et plus tard, qu'est-ce que tu voudrais faire ?
Je voudrais faire maîtresse. Comme ça, je peux apprendre à les enfants plein de choses.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Rêver de devenir maîtresse, c'est plutôt bon signe ou pas, Isabelle Danérolle ?
C'est bon signe puisque moi-même, j'en ai rêvé quand j'étais enfant. Donc, j'ai fini par réaliser mon rêve. Hein. Je me suis tout de suite orientée dans la profession, dans l'enseignement, et je suis devenue maîtresse très tôt, parce qu'à l'époque, on devenait très tôt maîtresse.
Si vous deviez qualifier, raconter, définir l'école maternelle en une phrase, qu'est-ce que ça serait ?
C'est le premier maillon du système éducatif français, donc c'est un passage plus qu'important pour entrer de manière bienveillante et confortable dans la scolarité et sur le chemin des apprentissages. Donc l'école maternelle, c'est vraiment... C'est pas obligatoire et pourtant on a quand même 100% des enfants français qui y viennent, c'est que voilà, l'école est accueillante.
L'école n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Vous avez remarqué dans le reportage, quand on leur demande qu'est-ce que tu apprends avec cette chanson, ils savent à quoi servent chaque activité.
Alors c'est dans l'objectif de l'enseignant.
On joue pas gratuitement.
Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure que voilà, on n'était pas là pour jouer, mais pour apprendre.
Un peu quand même en France.
En même temps, le jeu et le travail de l'enfant, faut le savoir. Donc on joue, mais on joue pour apprendre. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser aux auditeurs.
Le jeu et le travail de l'enfant, ça c'est une belle formule. Agnès Florin, alors qu'a-t-elle de si particulier cette école maternelle française que l'on fréquente en général entre 3 et 6 ans ?
Oui, effectivement, comme le disait l'intervenante précédente, 100% quasiment des enfants en France ont la chance d'aller à l'école, bien que ça ne soit pas obligatoire. Donc on doit lui trouver des mérites et probablement, il ne s'agit pas uniquement de la gratuité. Nous avons la chance d'avoir une école publique gratuite. Surtout, elle accueille tous les enfants, quelle que soit leur langue, leur famille, leurs conditions de ressources, ce qui n'est pas le cas des autres modes d'accueil. Sa spécificité, c'est effectivement qu'elle est intégrée à l'éducation nationale, une sorte de premier maillon de l'école, dans l'école primaire, suivi de l'école élémentaire, et elle a été développée par du côté de l'instruction et non pas de l'hygiène ou des soins physiques comme c'est le cas des crèches par exemple. Alors pour autant, je souscris aussi à ce qui a été dit, on va à l'école pour apprendre, mais pour apprendre beaucoup de choses, pour apprendre à parler, à communiquer, pour développer les relations avec autrui, pour apprendre à apprendre aussi, et pour s'ouvrir au monde, aux différents modes d'expression. Et c'est vrai que le jeu est un moyen essentiel à cet âge-là pour apprendre. Et les enfants sont capables de faire des choses très difficiles quand ils savent à quoi servent ces apprentissages, les activités qu'on leur propose.
Alors justement, on va entrer un peu dans les détails sur ce qu'on fait vraiment dans une journée d'école maternelle, parce que pour beaucoup de parents, c'est un peu un mystère, parce qu'il est vrai que les enfants racontent assez peu hein, le soir quand ils rentrent. Qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Bon, je fais un dessin, puis en général, ils y ont passé plusieurs heures, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne racontent pas. Nous sommes en ligne avec Isabelle Ledru-Nérinck, directrice de l'école française de Sarrebruck et d'Yline. Bonjour Isabelle. Vous êtes donc en Allemagne dans cette école maternelle. 30% d'élèves allemands sont dans cette école sans avoir de parents d'origine française. Alors que viennent chercher les parents dans cette école maternelle française ?
Voilà, alors nous sommes dans l'école maternelle et ancrée géographiquement donc au sein du continuum école maternelle, école élémentaire et lycée. Donc nous avons des enfants qui peuvent arriver chez nous à l'âge de 3 ans et qui peuvent rester chez nous jusqu'à la fin de la scolarité. Ce qui attire ces familles, ces 30% de familles allemandes, c'est justement particulièrement ce côté plurilingue, biculturel ou pluriculturel, car nous veillons vraiment à avoir une hétérogénéité dans les groupes d'enfants français, d'enfants franco-allemands, d'enfants allemands et d'enfants de nationalités diverses. Nous accueillons aussi des enfants germano-turcs, des enfants franco-russes, etc.
Mais pour ces petits Allemands, l'école maternelle française n'a rien à voir avec ce qu'ils ont chez eux, le kindergarten.
Voilà, exactement. Donc les parents allemands ont la possibilité, effectivement, auraient la possibilité de choisir de mettre leur enfant au kindergarten allemand. Et ils choisissent l'école maternelle pour diverses raisons. Ce qui motive les parents, c'est aussi cette continuité qui, au niveau de la scolarité, qui fait que nous sommes une école. Donc
très concrètement, quelle est la différence entre ce qu'on fait dans un jardin allemand, dans un jardin d'enfants allemand et à l'école maternelle française?
Alors très concrètement, déjà au niveau de l'école maternelle, nous avons les programmes nationaux, ce qui n'est pas du tout le cas au niveau des kindergarten. Il faut savoir que les kindergarten ont des programmes qui dépendent d'un état à l'autre, d'un land à l'autre, et que ces programmes sont orientés très essentiellement sur la créativité de l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'à l'école maternelle, bien sûr, ça n'est pas le cas et c'est énormément le cas.
Donc concrètement, quelles sont les différences d'activité?
Alors les différences d'activité, nous allons à l'école maternelle être plus orientés vers le développement de compétences précises pour les enfants.
Oui, très concrètement, donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Eh bien, ça veut dire que les enfants vont déjà être peut-être amenés à toujours, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, sous forme de jeu, à découvrir les livres, à faire des petites expériences de science, à développer des compétences corporelles. Et tout cela avec...
Développer des compétences corporelles en langage accessible à tous, ça veut dire quoi? On apprend à danser, on fait de la gymnastique.
Ça veut dire aider le corps à grandir dans toutes ses capacités et l'enfant pratique les activités corporelles, mais il y a un objectif derrière, c'est-à-dire qu'on veille à ce que l'enfant évolue dans les compétences attendues au fur et à mesure du programme, en fait. Dans le programme...
En une phrase, s'il y avait une activité qu'on fait à l'école maternelle française qui se distingue vraiment du jardin d'enfants allemand?
Alors, bon, chez nous, les langues, parce que les enfants, il y a des moments d'enseignement où les enfants vont travailler avec des collègues professeurs qui interviennent au niveau de l'élémentaire pour les arts plastiques, pour le sport, et en même temps, ils vont travailler leurs compétences langagières et linguistiques.
On est beaucoup plus donc dans l'apprentissage scolaire. Je crois qu'on l'aura bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle Le Drunéringue d'avoir été en ligne avec nous. Isabelle Danérol, est-ce que vous voyez bien cette comparaison entre ce qui peut se passer dans un jardin d'enfants? On est davantage, vous nous le disiez, le jeu et le travail de l'enfant, mais néanmoins par rapport à la différence de conception entre les Allemands et puis l'école maternelle française, est-ce qu'on travaille plus dans une école maternelle française avec des objectifs assignés par le ministère de l'Éducation nationale?
Voilà, c'est pas qu'on travaille plus, c'est que nous avons des missions, on a des programmes, elle en parlait, mais c'est ça l'essentiel, c'est qu'en fait nous on a des attendus et ces compétences elles sont décrites dans les programmes et chaque enseignant se doit de savoir évidemment ce que l'on doit attendre des enfants arrivés en fin de grande section pour se préparer.
C'est pas un peu tôt en même temps pour imposer ça à des enfants si jeunes?
Non, il est jamais trop tôt pour se donner des objectifs, pour savoir ce qu'on apprend aux enfants, hein, et quel que soit leur âge, même quand ils sont même avant l'école, on se dit qu'à 3 ans, ben voilà ce qu'on pourrait savoir et ce qu'on doit apprendre aux enfants. Donc les programmes sont là pour fixer des attendus au niveau des compétences à acquérir pour ensuite pouvoir aller poursuivre sa scolarité. Mmh. Et la grande différence, c'est qu'en France, effectivement, toutes les écoles de France, toutes les écoles françaises utilisent les mêmes programmes. Et là, il y a une égalité, en fait, au niveau de ce qu'on apprend aux enfants qui est importante à souligner.
Vous nous appelez les voisins pour mieux comprendre ce qu'un enfant entre 3 et 6 ans est susceptible d'apprendre grâce à l'éducation préscolaire. Évidemment, là, on parle beaucoup de la spécificité d'école maternelle. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone de notre standard.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo. Soyez les bienvenus.
Agnès Florin, vous êtes spécialiste de l'école maternelle. Qu'est-ce qu'un enfant entre 3 et 6 ans est capable d'apprendre à l'école maternelle ?
Énormément de choses. D'abord, il en a déjà appris beaucoup avant d'entrer à l'école, à 2 ans ou à 3 ans. Mais à l'école maternelle, il va apprendre, par exemple, dans le domaine du langage, qui est un domaine important en tant que tel et pour la suite des apprentissages. Et il va pouvoir apprendre à communiquer avec des adultes, avec d'autres enfants, en se faisant comprendre, utiliser différents usages du langage, raconter, décrire, expliquer, questionner.
On apprend à parler en public.
Solutions.
On apprend à parler en public à l'école maternelle, hein, notamment.
On apprend aussi à parler dans un groupe et à tenir compte de ce que dit autrui, à exprimer des pensées. Parce que souvent, les enfants ont une expérience du langage qui consiste à contrôler leur comportement, fait ceci, fait cela. Or, le langage, c'est aussi échanger des pensées. Et donc ça, ils l'apprennent à l'école maternelle avec les usages de la langue qui est pratiquée, donc pour nous le français, mais ils apprennent aussi à s'exprimer à travers l'activité physique, à grimper, sauter, tenir précisément dans ses doigts un outil particulier. Et ça va aussi préparer à l'écriture.
Oui. Et à chanter.
Et puis ils sont en compte.
Isabelle Danérol, il y a une question que les parents posent quand même toujours beaucoup, c'est est-ce que mon enfant va commencer à apprendre à lire à l'école maternelle ?
Alors, il n'y a pas d'apprentissage systématique de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle. Il y a ce qu'on pourrait appeler des prérequis, c'est-à-dire qu'évidemment que, comme le disait Agnès Florin, il y a tellement de choses à apprendre à l'école maternelle qu'au travers des livres, au travers de toutes ces activités langagières autour du langage, qui seront autour du langage oral, mais aussi du langage écrit, les enfants seront préparés pour arriver au CP dans de bonnes conditions pour attaquer un apprentissage systématique.
Qu'est-ce qu'on fait par exemple comme exercice auquel ne penseraient absolument pas les parents pour préparer les enfants à l'apprentissage de la lecture ?
Alors, il ne faut pas prononcer
le mot exercice.
Voilà, comme ça nous gêne de
donnez-nous des exemples précis.
Non, mais pour apprendre à parler, le mieux, c'est quand même de parler. Hein, ça paraît tout simple. Mais donner la parole aux enfants, s'intéresser à ce qu'ils disent, pouvoir leur répondre quand ils s'adressent à nous, prendre en compte leur point de vue. Tout ça, ce sont des choses que les parents peuvent faire, effectivement. Lire des histoires aux enfants, bien sûr que ça revient très souvent. Mais en parler avec eux, parler de ce qui s'est passé à l'école et non pas seulement en termes de qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui. Et les parents à l'école maternelle ont cette spécificité qu'ils rentrent dans l'école. À l'école élémentaire, les parents déposent leurs enfants à la porte de l'école. La maternelle accueille. Hein, vraiment, cette notion d'accueil à l'école maternelle est très importante. Et pourquoi ? Bah pour que les parents, justement, puissent entrer dans l'école, voir ce qui s'y passe et s'associer, en fait, à la vie de leur enfant.
Une classe d'école maternelle, c'est toujours extrêmement vivant, très coloré. Il y a beaucoup d'objets fabriqués par les élèves. On va en parler de ce qu'apprennent les élèves à l'école maternelle. Vous restez avec nous, Isabelle Danérol. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le flash. Et bien sûr, les voisins, vous nous appelez si vos enfants fréquentent une éducation préscolaire. 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins. Nous revenons juste après le flash, dans un peu plus de 3 minutes maintenant.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle de l'école maternelle telle qu'elle est conçue en France ou éducation préscolaire ailleurs qui se développe, notamment à la faveur de l'éducation pour tous dans les pays en développement. Agnès Florin est avec nous, chercheuse spécialiste d'école, de l'école maternelle. Isabelle Danérol, directrice d'une école maternelle publique à Paris et membre de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire. Appelez-nous les voisins si votre enfant suit une éducation préscolaire. Qu'est-ce que cela apporte à votre enfant ? 33 1 84 22 71 71.
C'était une fois le grand méchant loup qui était affamé. Mais il avait un ogre qui était si géant, alors il pouvait pas sortir de sa maison. Et puis c'était le géant qui avait envie de manger le loup. Alors un jour le loup Lisa, je vais prendre l'avion pour aller sur une autre terre. Aussi, je vais faire de la rame. Alors, le loup faisait de la rame et il arriva juste à Port de la Villette. C'était pas très loin. En fait, il avait envie de manger tout le monde. Alors, il mange tout le monde et il mange tout le monde. Mais un loup, son ventre se mit de trop manger, j'ai trop mangé. Non, je veux plus rien. Il serait fini.
Voilà ce que Joseph, 5 ans, en grande section de maternelle, est capable de faire. Preuve qu'on apprend quand même des choses à l'école maternelle, beaucoup de choses.
Je ne sais pas si c'est l'école qui lui a appris tout ça, mais en tout cas, il est tout à fait compétent dans la manière dont il raconte une histoire. Ça, c'est quelque chose que l'on travaille spécifiquement à l'école maternelle.
C'est vraiment l'école du langage, l'école maternelle.
Le langage a toujours été au cœur de nos apprentissages et les enseignants multiplient les occasions de pouvoir donner la parole aux enfants. Alors, on parle, les parents imaginent souvent les enfants regroupés tous ensemble, prenant la parole. Ce n'est pas forcément le meilleur moyen de donner la parole à tout le monde, parce qu'effectivement, là, les plus beaux parleurs vont prendre le dessus. Donc l'enseignant va organiser tout au long de sa journée et à diverses occasions, on parlait des activités sportives tout à l'heure, la fin d'une séance de motricité par exemple peut être tout à fait l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé et d'utiliser du vocabulaire, des verbes d'action qui vont apprendre à l'enfant, enfin à parler.
C'est ça,
à l'enfant.
Même quand on a joué au foot, on apprend à parler juste derrière, hein, c'est bien ça.
Voilà.
Agnès Florin.
Oui, je voulais intervenir sur l'importance aussi de l'école maternelle française pour d'autres pays. J'ai eu l'occasion de travailler en Chine, en Tunisie, je travaille aussi pour la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie, donc les pays francophones d'Afrique, et je dois dire que le modèle de l'école maternelle est tout à fait recherché dans d'autres pays qui ont pris les programmes de l'école, qui ont voulu développer au moins un an, voire deux ans d'école maternelle. Alors pourquoi ? Pourquoi se sont-ils adressés à la France et pourquoi développer de l'école maternelle ? Eh bien parce qu'on s'est aperçu que la moitié des performances du niveau atteint à l'entrée au collège étaient liées aux acquis antérieurs. Par exemple, dans les pays africains, on voit qu'il y a un abandon scolaire extrêmement important à l'école élémentaire parce que l'école est assez loin des connaissances des enfants, y compris dans le domaine de la langue, qui n'est pas forcément la leur, etc. Et un moyen aussi de réduire cet abandon scolaire, outre les conditions de scolarisation en élémentaire, c'est aussi de tenter de développer l'école maternelle au moins un an, voire deux, lorsque c'est possible. C'est ce qui s'est fait par exemple en Tunisie, pour améliorer le niveau des jeunes au 21e siècle dans les échanges et les besoins d'une société. On a commencé à développer il y a une quinzaine d'années l'école maternelle et à importer, je dirais, des éléments de l'école maternelle française.
Une école maternelle gratuite, donc. Hein.
Et gratuite et ouverte à tous. Ouais, c'est un élément important. Alors, à la fois pour cette ouverture à tous, mais aussi pour nous aider à vivre ensemble.
Justement, on va
ça,
en
c'est
parler.
Une des valeurs de l'école.
Nous allons donner la parole à des auditeurs, si vous le voulez bien, Agnès Florin. Daniel nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez fréquenté l'école maternelle ou vos enfants, Daniel ?
Bien sûr. Quand j'étais enfant, j'ai eu à fréquenter l'école maternelle comme tous les enfants.
Non, pas comme tous les...
privé ?
Pas comme tous les enfants, Daniel. Vous parlez d'une école privée payante ?
Oui, oui, c'est une école privée payante.
Mmh. Et voilà.
Ouais.
Et donc ?
Oui, moi je garde un très bon souvenir de mon passage à l'école maternelle parce que c'est à l'école maternelle que j'ai appris un peu à se familiariser avec les autres. Parce que c'était déjà à l'âge de 3 ans que j'ai eu à intégrer l'école maternelle. Et là, j'ai eu à me familiariser avec les autres. Et certaines notions élémentaires, je les ai apprises là-bas, comme le comptage de 1 à 10. Je l'ai appris à l'école maternelle. Comment écrire mon nom? Je l'ai appris à l'école maternelle. Et comment différencier les couleurs? Quelle couleur? C'est jaune, ça c'est vert, ça c'est rose. Donc tout cela, j'ai eu à apprendre ça à l'école maternelle.
Daniel, aujourd'hui, vous êtes à l'université, c'est bien cela?
Oui, je suis à l'université maintenant.
Vous payez moins cher à l'université que ce que vos parents payaient quand ils payaient l'école maternelle ou le jardin d'enfants à Kinshasa pour vous, hein?
Bon, moi, ça m'étonne un peu. Maintenant, là, actuellement, là où moi j'étudie, là où j'ai fait mon université, on paye moins cher par rapport à d'autres écoles maternelles et primaires de la ville, surtout les écoles privées.
Ouais.
Vu qu'il y a trop de l'évolution, donc ces écoles-là sont un peu sophistiquées, quoi. Donc, il y a un peu, là, on paye trop cher par rapport à nous autres. Et certains parents commence un peu à hésiter. Donc, surtout ceux qui n'ont pas de moyens commencent à hésiter pour envoyer leurs enfants à l'école maternelle.
Oui, d'autant plus que la priorité reste quand même la scolarisation des enfants à l'école primaire, à l'école élémentaire, qui est loin d'être le cas pour tous les enfants au Congo. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Daniel, je voudrais qu'on donne la parole à Robert qui nous appelle de Lagos au Nigeria. Bonjour Robert.
Oui, bonjour Emmanuel, comment vous allez?
Très bien, soyez le bienvenu, vous êtes béninois et vos enfants sont scolarisés à l'école maternelle ou l'ont été au Bénin, à Cotonou, c'est bien cela?
Oui, ils ont été au Bénin.
Oui.
Ils ont été au Bénin.
Alors quel bilan? Vos enfants sont encore très jeunes, hein, me semble-t-il, 8 ans, 4
oui,
ans?
Oui, ils sont très jeunes, l'année a 8 ans et la Benjamin, elle a 4 ans.
Donc la deuxième est toujours
à l'école maternelle.
Elle est toujours à l'école maternelle, la deuxième?
Non, la deuxième, elle est à 5 ans et demi, et 4 ans et demi, du moins. Donc, elle est déjà au pays cette année.
D'accord.
Elle a déjà passé un peu à la maternelle.
Et comment se fait-il? Donc, elle est déjà rentrée à l'école élémentaire à un si jeune âge?
Oui, oui. Oui, oui. Vous savez, au Bénin, bon, l'école élémentaire commence à partir de 6 ans. Vous comprenez? Mais on ne peut pas mettre tous les enfants sur la même longueur d'onde. Vous comprenez? Il y a des enfants qui sont plus éveillés à l'école plus que d'autres. Vous comprenez? Il y a des enfants, après 2 ans, ils n'arrivent pas toujours à bien s'intégrer dans le système de la maternelle. Donc, cela, ils peuvent vous répéter à plusieurs fois. Vous comprenez?
Oui.
Par exemple, ma fille, elle a commencé à 2 ans, l'école maternelle.
Ah, elle a commencé à 2 ans?
À 2 ans. Elle n'avait même pas encore 2 ans quand elle a commencé l'école maternelle. Donc, ça l'a beaucoup aidé. J'ai constaté, bon, après, elle a commencé par compter, faire des récitations que la maîtresse faisait à l'école. Elle a commencé par, des fois, elle arrive à la maison, elle prend la paix, elle va au tableau, elle commence par répondre des choses au tableau. Donc, il y a des choses qui changent en elle. Des choses que moi, je ne peux pas lui faire à la maison, vous comprenez. Elle apprend à se socialiser avec les autres, à compter, à lire des choses. Elle voit des choses sur la voie, elle me dit, ah, papa, c'est quoi ça là? Comment on dit ça là? Comment on appelle ça là? Elle a un rebelle d'esprit un peu extraordinaire, vous comprenez.
Ça. Votre fille est assez en avance, mais vous semblez assez émerveillée de ce qu'a produit l'école maternelle sur elle.
Oui, énormément. Même dans mon village, vous savez, nous, on n'a pas tellement de classe et de salles de classe. Et bon, le chef de village, il a fait des paillotes, mais les enfants à la maternelle, ils sont sous les paillotes. Mais je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, l'école maternelle a déjà 5 ans actuellement dans mon village. Mais tous les enfants qui sont passés, ils sont déjà au pays. Ils parlent bien le français, malgré le système mis en place archaïque, ok. Il n'y a pas de système.
Ouais. Donc cette école maternelle, donc c'est en zone rurale, c'est un petit peu à l'extérieur de Cotonou, si
oui,
j'ai
oui,
bien compris.
Oui, oui, oui.
Ça produit vraiment des résultats sur ce qu'apprennent les élèves et sur la façon de s'ancrer ensuite dans l'école élémentaire. Hein, exactement ce que nous disait Agnès Florin.
Oui, oui.
Alors cette école, elle est payante. Je crois que vous payez 1500.
C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Gratuit. Il y a même le directeur même passe de maison en maison pour dire aux parents, envoyez vos enfants, pour chercher les enfants, pour les amener à l'école. Et ce qui est bien, il y a l'UNICEF, ok, qui donne parfois des sacs d'école. Donc ça fait que les parents, ils ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école. Déjà un enfant qui a déjà un an, 8 mois, on l'envoie déjà à l'école.
Vous faisiez beaucoup allusion, en tout cas, à d'autres écoles maternelles qui étaient largement payantes à Cotonou.
Oui, oui, il y a d'autres écoles maternelles qui sont payantes, mais ce n'est pas tellement cher, beaucoup plus élevé. En ville, les écoles publiques sont, bon, relativement moins chères. Mais par rapport au privé, bon, ce n'est pas tellement...
Vous parliez d'un million, vous avez parlé au standard d'un million de francs CFA pour...
À Lagos.
À Lagos, d'accord. 1500 euros par trimestre ou par an?
Oui, par trimestre. Pas trimestre.
Les 1500 euros par trimestre pour une école maternelle à Lagos, là où vous vivez au Nigeria, ça s'appelle de l'éducation ou du business?
En tout cas, ce que moi j'ai constaté, c'est du business. Parce que déjà, à la maternelle, où il y a des écoles où ils ont des facilités comme ils font le taekwondo, le ballet, la musique, tout ça là. Donc vous comprenez ce que je dis. Ils font l'informatique, le français, le mandarin. Donc tout ça là, c'est incorporé dans la contribution. Et c'est pas trimestre.
D'accord.
Il y a une petite école où je vais le lundi. La contribution, c'est environ à 750 000 francs CFA.
Merci Robert, pour ce témoignage du taekwondo, du mandarin, tout ça, dans la capitale nigériane.
Je pense qu'il y a une surenchère au niveau des activités pour augmenter le prix de l'école, peut-être.
Justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que directrice d'école maternelle, de cette surenchère?
Je pense que les programmes de l'école sont déjà bien remplis. Un enfant qui vient de 8h30 du matin jusqu'à 16h30 le soir, il a déjà dans sa journée de nombreuses activités. Il fait les 5 domaines d'apprentissage sont explorés. Donc on a parlé de la gymnastique, il peut faire de la danse, mais il y a toutes ces activités langagières. Il fait du dessin, de la peinture.
On fait aussi
on les
la
emmène
sieste.
Au musée.
On fait aussi la sieste.
Alors
parce
on
que
fait la sieste chez les petits.
Dormir,
oui. On fait la sieste particulièrement en petite section. C'est un temps calme, d'ailleurs, qui n'est pas forcément obligatoire. Il y a des enfants qui n'éprouvent pas ce besoin de dormir absolument jusqu'à 14 heures à peu près. Mais voilà, la journée est déjà bien remplie. Donc, je pense qu'arriver à 16h30, les enfants aspirent à un petit peu de calme quand même.
Agnès Florin, quelles sont à l'heure actuelle les expériences les plus intéressantes dans cette éducation préscolaire ou l'école maternelle à la française?
Je crois qu'il y a un renouvellement des pédagogies parce que pendant un certain temps, l'école maternelle était peut-être un peu trop centrée sur les pré-apprentissages, c'est-à-dire apprendre dès la maternelle, à déjà préparer très fortement et de la pré-lecture et de la pré-écriture, etc. On commence à prendre en compte, comme on le fait dans les pays d'Europe du Nord, beaucoup plus toute la globalité du développement de l'enfant et les besoins du jeune enfant. On peut tout à fait apprendre à développer son vocabulaire, ce qui va aider la lecture et l'écriture, non en apprenant des listes de mots, mais en jouant avec les mots, en jouant avec les sonorités des mots, repérer des éléments communs, sonores, entre lapin et sapin, Julien et sapin. Ah tiens, on entend la même chose.
Oui.
Et ce genre de jeu, ça va aider à la correspondance entre les mots écrits et les sonorités.
Mais alors, vous avez travaillé à exporter l'école maternelle, notamment en Chine, dans des pays où le par cœur est quand même omniprésent, et c'est pas du tout l'esprit de l'école maternelle à la française. Alors comment ça se passe, là, le choc culturel entre les deux?
Mais ça, c'est difficile à appréhender globalement sur la Chine. C'est un territoire si grand avec une si grande variété de niveaux économiques. Vous savez, tout part souvent de Shanghai et puis après, donc la partie la plus développée. Et après, ça va essaimer dans les villes et les villages. Mais il y a eu une ouverture et un intérêt qu'on soupçonne pas, par exemple, à ce qui constitue la qualité de vie des enfants, le respect de leurs besoins. Parce que derrière, si on ne le respecte pas, il y a aussi des problèmes sociaux qui peuvent arriver. Il y a de l'abandon scolaire, d'une part, mais il peut y avoir des problèmes de suicide chez les jeunes. Donc en Chine, on s'en est préoccupé presque plus tôt qu'en France. Je ne veux pas dire qu'on l'a appliqué partout, loin de là. Mais on s'est préoccupé de ces questions-là, au niveau de la recherche et au niveau de la pédagogie et des cadres de l'éducation.
Ouais.
Pour essayer de réduire justement un certain nombre de problèmes sociaux en intervenant plus tôt, ce qui est constitué aussi des facteurs d'économie, en même temps que, faut pas le nier, des préoccupations humanistes. Et l'apprentissage par cœur perdure, mais il perdure aussi dans la préparation des études de médecine en France.
Oui. Et pas que en Chine. Isabelle Danérol, qu'est-ce qui fait une école maternelle de qualité, finalement, après toutes ces années comme directrice d'école maternelle, comme enseignante aussi dans les salles de de classe d'école maternelle?
Ben, je pense que la première chose à laquelle je pense, c'est l'accueil, c'est la qualité de l'accueil. Je crois que les parents, quand ils entrent dès la première fois dans l'école maternelle, ils sont frappés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par ces couleurs, par ce monde qui se doit d'être accueillant pour l'enfant et sa famille. Le fait de pouvoir intégrer les familles, c'est vraiment la garantie d'une scolarité réussie. Donc déjà, cette notion d'accueil me semble essentielle. Ensuite, quand le parent accompagne son enfant dans la classe, il perçoit un univers qui est totalement différent de ses souvenirs peut-être d'école, parce que la classe n'est pas organisée face au tableau. Donc cet aménagement de l'espace aussi fait partie tout à fait de la spécificité de l'école maternelle, avec des coins de jeu, des activités spécifiques. Et là, déjà, le parent se sent... c'est un monde de la petite enfance qu'il perçoit.
Alors, il y a des parents qui nous écoutent, qui se disent, est-ce qu'il faut qu'il y ait des ordinateurs à l'école maternelle pour montrer la modernité de l'école?
Alors, il ne s'agit pas de montrer la modernité de l'école, il s'agit de la pratiquer. Il y a des ordinateurs qui commencent à arriver dans l'école, on est toujours un petit peu peut-être en retard au niveau du matériel, mais en tout cas le numérique entre dans l'école maternelle, ça fait partie des besoins de l'école. On les initie, alors ils sont parfois, d'ailleurs ils arrivent déjà avec plein de compétences de la maison dans ce domaine.
Merci en tout cas à toutes les deux. Merci Agnès Florin, merci Agnès Isabelle Danérol. Dans quelques instants on va s'intéresser à ces enfants qui ne vont pas à l'école mais qui travaillent pour nourrir leur famille dans l'agriculture ou qui effectuent des travaux domestiques. Nous allons parler de cette quatrième conférence pour l'élimination du travail des enfants qui se passe en ce moment, cette semaine à Buenos Aires. 152 millions d'enfants dans le monde sont obligés de travailler. On en parle juste après Want It Back.
It off. I cannot watch this with my son. Call me a dreamer, I'm not the only one. It only seems impossible until it's done. His story is good until we tell another one. Meanwhile sell another gun and blame them if they use it up to kill another one. Well it's still before the storm. We set sail against the currents and the norms. Here we are.
Conférence sur l'élimination du travail des enfants se tient cette semaine à Buenos Aires en Argentine. Nadine Océran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du travail des enfants à l'Organisation internationale du travail. Alors avec les progrès de la scolarisation pour tous et 4 ans après la précédente conférence, est-ce que le travail des enfants enfin recule dans le monde ?
Alors oui, le travail des enfants a reculé. Depuis 2012, il a reculé de 16 millions. Donc on est passé de 168 millions d'enfants travailleurs à 152 millions en 2016. Ce recul, il a bien lieu. On est sur la bonne voie. Par contre, les progrès sont un peu trop lents et il faudrait vraiment accélérer le rythme du recul pour pouvoir atteindre les objectifs de l'élimination totale du travail des enfants en 2025 et du travail forcé, l'élimination du travail forcé en 2030.
Sur ces 152 millions d'enfants, évidemment, des âges, des profils, des pays très différents ?
Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, la plus grande concentration des enfants travailleurs se trouve en Afrique et en Asie et Pacifique. 72 millions sont en Afrique. Ça veut dire qu'un enfant sur cinq en Afrique travaille et dans le travail des enfants. En Asie et Pacifique, on a 62 millions d'enfants travailleurs. Et les autres régions sont les Amériques, l'Europe et l'Asie centrale et aussi les pays arabes.
Quand vous parlez d'enfants travailleurs, vous parlez de quel âge ?
Alors, les enfants qui travaillent sont tous les enfants en dessous de 18 ans, particulièrement les enfants de 5 à 11 ans, qui sont dans tout type de travaux, sont des enfants qui sont dans du travail qu'on doit abolir. Ensuite, pour les enfants qui ont au-dessus de 16 ans, mais pour certains pays au-dessus de 14 ans, qui sont dans, les enfants qui sont dans des travaux dangereux ou dans les pires formes du travail des enfants, comme la prostitution, comme le travail forcé, la servitude pour dette, ou bien les enfants qui sont enrôlés dans les conflits armés. Toutes ces catégories-là, des pires formes du travail des enfants, sont pour les enfants de tous les âges en dessous de 18 ans.
C'est ça. Sur ces 152 millions d'enfants au travail, il y a soit du travail dangereux, soit des enfants qui sont beaucoup, beaucoup trop jeunes pour être au travail. Pour le travail dangereux, c'est d'abord l'agriculture avec l'usage de pesticides ?
Alors, tout à fait. Pour le travail dangereux, la grande partie du travail des enfants est dans l'agriculture, 70%, avec effectivement l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, mais aussi l'utilisation des outils tranchants et aussi dans d'autres secteurs, quand les enfants, par exemple, portent des charges beaucoup trop lourdes qui affectent leur croissance et leur développement, c'est du travail dangereux. Quand ils se mettent à risque, par exemple, au contact de bêtes dangereuses, c'est aussi du travail dangereux. Quand ils travaillent la nuit, ça peut aussi être du travail dangereux. Dans la pêche aussi, quand ils vont faire de la pêche en haute mer sans aucune protection, c'est aussi du travail dangereux. Ça, ce sont des exemples, mais chaque pays va définir que sont les travaux dangereux dans chaque pays.
Ouais, beaucoup d'enfants, évidemment, dans le bâtiment, dans les mines.
Oui, tout à fait. Donc, les autres formes du travail des enfants sont autre que l'agriculture. Il y a des enfants qui travaillent dans les services, donc dans tout ce qui est restaurant, hôtel, la mécanique, la réparation des véhicules, et aussi dans le travail domestique. Et ensuite dans l'industrie, dans la construction et dans les mines, dans la production de toutes les mines.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays qui ont fait des efforts particuliers avec des résultats intéressants ?
Alors, tout à fait. Il y a des pays dans le monde entier qui ont fait des efforts particuliers et qui ont beaucoup de très bons résultats. Au niveau des politiques et des législations, il y a beaucoup de législations qui sont en train de se mettre en place et qui sont conformes aux conventions internationales sur le travail des enfants. Mais en plus de ça, pour vraiment mettre en œuvre des interventions directes, par exemple, je vous donne l'exemple du Ghana, il y a des gouvernements locaux qui ont mis en place des comités de vigilance dans les villages, avec des comités locaux de volontaires, que ce soit des enseignants, des chefs de village, qui vont surveiller la situation du travail des enfants au niveau du village, qui vont identifier les enfants travailleurs, les retirer du travail et leur permettre d'aller à l'école. Et ils vont aussi s'assurer que ces enfants ne vont pas recommencer à travailler. Donc si par exemple un enfant travaillait dans un champ de cacao et qu'on le retire du travail des enfants, ces comités de vigilance vont s'assurer qu'ils ne vont pas aller faire un autre travail, par exemple, dans un petit commerce pour continuer à subvenir aux besoins. Mais ils vont s'assurer que les enfants restent à l'école. Donc, les comités de vigilance pour le suivi du travail des enfants au niveau local est vraiment une bonne pratique, un bon exemple que l'on souhaite promouvoir, qui a été mis en place au Ghana, par exemple.
Qu'est-ce qui est fait pour apporter une réponse aux parents qui disent « Ok, mon enfant ne travaille plus, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se nourrit ?»
Alors, tout à fait. Dans les interventions qui ont été mises en place dans de nombreux pays, comme par exemple au Kenya, il y a une approche qui est intégrée pour vraiment aider les parents à subvenir à leurs besoins pour éviter que leurs enfants aillent travailler. Donc, d'une part, on s'assure que la protection sociale puisse s'étendre à ses familles par l'intermédiaire de transferts en espèces ou d'aides de subventions qui sont parfois conditionnées au fait que les enfants ne travaillent plus. Ça a été le cas au Brésil notamment.
Avec les fameuses Bolsa Escola, hein, ça a été
tout à fait.
Avec le président Lula, où à la place on mettait son enfant à l'école et on touchait la somme que si on avait mis l'enfant à l'école.
Exactement, et qu'on garantissait que l'enfant ne travaillait plus. Tout à fait. D'autres exemples concernant les parents, c'est aussi de leur. Pour beaucoup de parents, ils n'ont pas eu d'accès à des emplois décents. Donc, on va leur fournir aussi des compétences, des apprentissages. On va leur permettre d'accéder à des apprentissages professionnels pour qu'ils puissent avoir un métier. Pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille.
Abolir le travail des enfants d'ici 2025, c'est un des objectifs du développement durable des Nations Unies. En un mot, Nadine Nocéran, est-ce que c'est possible ou pas ?
Alors, c'est tout à fait possible. C'est notre espoir pour la conférence d'Argentine qu'un engagement très fort soit fait par toutes les parties prenantes à la conférence.
Voilà, et prochaine conférence, 4 ans après. Merci beaucoup Nadine Nocéran de l'Organisation internationale du travail. Isabelle Donnerand, dans votre école maternelle, vous fêtez la journée des droits de l'enfant, m'avez-vous dit, le 20 novembre.
L'éducation à la citoyenneté fait partie aussi des programmes de l'école. Voilà. Et chaque 20 novembre, nous fêtons l'anniversaire des droits de l'enfant. Cette année, c'est sur le thème du jeu, le droit de jouer. On est vraiment au cœur de notre débat d'aujourd'hui.
Et bien justement, on en parlera aussi demain parce qu'on sera toujours dans la petite enfance. Cette fois, on s'intéressera au métier d'éducatrice pour jeunes enfants et aussi à celle qu'on appelle communément les nounous. Comment se fait l'éveil des bébés? Et bien alors là, effectivement, il y aura beaucoup de jeux. Vous pourrez aussi nous appeler en direct dans l'émission. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même endroit.